Éclat de livre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Éclat de livre, l'émission consacrée à la littérature jeunesse sur les ondes de Radio G. Rendez-vous un dimanche sur deux à 17h pour évoquer à l'heure du goûter des livres pour enfants, petits et grands. Voilà des mois qu'experts, scientifiques, militants écologiques de la première heure nous alertent sur le déclin de la biodiversité de notre Terre. En écho à leur démarche, je vous propose de partir explorer ensemble des territoires encore très sauvages. Avec l'intrépide Felitza, nous arpenterons une réserve naturelle de la taïga russe sur les traces des grands fauves. Puis nous affronterons la forêt québécoise à la fin de l'hiver dans une course effrénée aux côtés de Jonas, amérindien en quête de liberté. Mais avant cela, qu'est-ce que c'est qu'un animal sauvage? C'est une des questions auxquelles répond le passionnant
« Sauvage ou domestique ? Comment l'homme a domestiqué les animaux ?»
Un album documentaire de Jean-Baptiste Panafieux, illustré par Simon Bailly et édité chez Gallimard Jeunesse.
Commençons par un peu d'histoire et remontons dans des temps très anciens, où les hommes préhistoriques chassaient des proies sauvages pour se nourrir comme pour se protéger. Car si nos ancêtres ont commencé à domestiquer des animaux, c'est-à-dire à les apprivoiser et à vivre avec eux, c'est parce que ces animaux pouvaient leur être utiles. C'est ainsi qu'est née la pratique de l'élevage.
Il y a 10 000 ans, au Proche-Orient, les hommes capturent des chèvres sauvages et des mouflons qu'ils nourrissent et gardent dans des enclos. Les animaux fournissent de la viande et de la fourrure, puis du lait. Au fil des générations, ceux d'entre eux qui supportent bien leur captivité se reproduisent alors que les autres disparaissent. Puis, les hommes tentent l'élevage des dangereux aurochs et des sangliers. Ils font aussi de la sélection parmi eux, éliminant ceux qui sont trop craintifs ou trop agressifs. Au contraire, ils choisissent les plus calmes et sûrement les plus beaux. Petit à petit, les espèces se transforment. Cette histoire s'est déroulée de la même façon en Extrême-Orient et en Amérique du Sud avec d'autres animaux comme la poule, le dindon ou le lama.
Des transformations de plus en plus profondes. Par la suite, les éleveurs cherchent à obtenir des animaux plus productifs, qui grandissent plus vite, fournissent plus de lait ou offrent plus de fourrure. Apparaissent alors de nombreuses races spécialisées de chevaux ou de vaches. À la fin du XXe siècle, les progrès de la biologie permettent de modifier l'ADN des animaux et d'agir sur de nouvelles caractéristiques.
L'album étudie ensuite une douzaine d'animaux variés. Cheval, vache, cochon, chat et même poisson rouge. Pour chaque espèce, il raconte l'histoire de leur domestication et livre une comparaison succincte des caractéristiques de l'ancêtre sauvage et de l'animal actuel, dont la domestication a influé sur l'évolution. Prenons par exemple
le chien. Le chien est un loup transformé par l'homme. Aujourd'hui, il existe près de 400 races de chiens, très différentes de leurs ancêtres.
Il y a plus de 20 000 ans, des loups se sont approchés des hommes, attirés par les restes de leur repas. Les humains, eux, se sont peut-être sentis mieux protégés contre les lions ou les hyènes.
Les hommes ont conservé auprès d'eux les loups qui reconnaissaient leur autorité et les moins agressifs. Les plus amicaux continuaient à l'âge adulte à se comporter comme des chiots.
Les premiers chiens ressemblaient encore beaucoup à des loups. Ils aidaient les hommes à transporter des tentes d'un campement à un autre. On les utilisait sans doute aussi pour leur fourrure.
Et aujourd'hui, il y a des chiens de berger. Lorsque les hommes ont domestiqué les moutons, ils ont aussi choisi, pour les assister, les chiens les plus aptes à réunir les animaux et à mener les troupeaux. Il y a des chiens multitâches.
Selon leur taille ou leur capacité, les chiens assurent de multiples tâches pour les humains. Ils aident les policiers et les douaniers. Ils guident les aveugles ou cherchent des blessés en montagne.
Les chiens sont devenus indispensables. La plupart des chiens sont aujourd'hui des compagnons considérés comme des membres de la famille. Il reste des chiens sauvages.
Quand ils ont été domestiqués, les chiens ont perdu certains traits de leurs ancêtres. Les dingos australiens sont des chiens redevenus sauvages. Ils sont plus petits que les loups et leur pelage est fauve.
Voici un livre qui se picore au gré de sa curiosité et de ses promenades à la campagne, où l'on croise bien des animaux domestiqués. Jean-Baptiste de Panafieux, l'auteur, agrégé de sciences naturelles, explique avec concision et simplicité le rôle et l'impact de la domestication des animaux par l'homme. Et les illustrations précises et colorées rendent le propos scientifique très vivant. Au-delà de l'enquête instructive, l'album rappelle intelligemment aux lecteurs, jeunes et moins jeunes, la nécessité de respecter tous les animaux et de protéger leur environnement. Mirza de Nino Ferrer ou les limites de la domestication d'un chien.
Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. J'avais pas vu Mirza. Oh la 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 la. J'avais pas vu Mirza. Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici?
Nous voici maintenant au cœur de la taïga, une immense forêt de conifères en Sibérie. Le climat est rude, la neige peut tomber, y compris en été. Bienvenue dans
Un monde sauvage,
un roman de Xavier Laurent Petit, édité par l'École des loisirs.
Felitsa, 10 ans, a grandi dans la bourgade de Slobonier, juste à côté de la taïga. Grâce à sa mère, garde forestier expérimentée, elle connaît tous les secrets de la forêt. Car comme le lui répète sa mère,
quand tu connais la taïga, tu connais toute la vie.
Partons avec elle en tournée au cœur de la réserve naturelle de la Verchnaya.
Ma mère appelait ça l'école de la taïga. Nos virées duraient 2, 3, parfois 4 jours. On partait dans son Patriote, un vieux 4x4 de l'armée reconverti en véhicule de fonction. Avec le GPS, le seul accessoire récent du Patriote était un lecteur CD grâce auquel elle écoutait les Rolling Stones. Et rien que...
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste.
Elle m'apprenait à tirer avec sa vieille carabine Baïkal, une pétoire qui datait de la dernière guerre. On pistait les traces du gibier et celles des braconniers dont on désamorçait les pièges. Pendant quelques jours, on vivait de ce qu'on chassait et de ce qu'on cueillait.
Le travail de maman consistait à surveiller toute la réserve. Elle était à quelques pas devant moi lorsqu'elle s'est brusquement arrêtée.
Viens voir ça, Félia.
La buée qui s'échappait de ses lèvres se transformait en nuages de paillettes glacées qui voltigeaient jusqu'à ses pieds. Sa voix tremblait d'excitation. Du bout de sa moufle, elle désignait quelque chose que, dans la pénombre, j'avais du mal à distinguer.
Qu'est-ce que tu en penses?
A demandé maman, les yeux fixés sur la neige. Je me suis baissée et, comme par magie, des empreintes sont apparues dans la lumière. Malgré le froid, maman a ôté sa moufle pour effleurer l'une d'elles du bout du doigt.
Alors?
J'ai observé les traces comme elle m'avait mille fois montré à le faire. Les marques régulières des pattes avaient écrasé la neige en traçant un mince chemin qui disparaissait entre les bouleaux. Un coussinet en forme de trèfle bien plus large que ma paume. 4 doigts prolongés de griffes avaient labouré la neige. Et en un éclair, je sus ce que j'avais sous les yeux et mon cœur s'est accéléré. Jusque-là, je n'avais vu ce genre d'empreinte que sur les photos prises par ma mère au cours de ses tournées.
Un tigre?
Ma voix n'était qu'un murmure. Maman a esquissé un sourire.
Mais ce n'est pas tout, Félia. Regarde mieux.
Elle a passé de nouveau le doigt sur l'empreinte.
Observe les pattes arrière.
Maman m'avait répété des milliards de fois que le poids de la plupart des animaux repose surtout sur l'avant. Ce qui veut dire que, généralement, les empreintes antérieures sont plus enfoncées que celles des pattes postérieures. Là, c'était le contraire.
Tu comprends maintenant?
J'ai sorti la première idée qui m'est passée par la tête. Une énorme idée.
Peut-être que c'est un très gros tigre avec un très gros ventre.
Maman a semblé ravie.
C'est exactement ça. Mais pourtant, on n'a jamais vu de tigre obèse.
Et soudain, j'ai compris.
Ce n'est pas un tigre, c'est une tigresse. Et elle est lourde parce qu'elle attend des petits.
Maman a plissé les yeux.
C'est exactement ça. Découverte fabuleuse et excitante, car bien que la réserve naturelle protège la faune et la flore, les tigres sauvages se font de plus en plus rares. Il faut dire que leur survie est constamment menacée par des hommes mal intentionnés.
La région était devenue le centre de tous les trafics. Ici, tout s'achetait et tout se vendait, y compris les tigres. De l'autre côté du fleuve, on croyait dur comme fer que manger du tigre rendait aussi fort, puissant et invincible que lui. Et les plus riches étaient prêts à payer des dizaines de milliers de dollars pour la dépouille entière d'un félin. On parlait de 50 000 dollars, et plus encore pour des bêtes d'exception. des sommes qu'aucun des habitants de Slobonier n'avait le moindre espoir de gagner un jour, sauf les trafiquants. Pour cela, la réserve était une véritable mine.
Dans cette région frontalière de la Chine, l'ennemi principal de la nature sauvage, ce sont les contrebandiers, qui n'hésitent pas à braconner en toute illégalité pour fournir leurs riches clients chinois installés juste de l'autre côté du fleuve Amour. Alors que Felitsa et sa mère découvrent l'existence d'une nouvelle famille de tigres, ce roman trépidant et très bien documenté nous plonge au cœur des luttes pour la protection et l'étude de la biodiversité. Les rebondissements nombreux du récit n'empêchent pas de prendre le temps de s'émerveiller devant la majesté des espaces encore vierges, territoire de chasse favori de ces magnifiques félins. Sympathy for the Devil, des Rolling Stones, un tempo sauvage qui pointe le diable en chacun d'entre nous.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands. Seal his face. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of
Voilà 6 ans que Jonas, jeune indien Cree, a été conduit dans un pensionnat pour autochtones. Nous sommes dans les années 1950 au Québec, et pour les missionnaires, les hommes qui ne partagent pas leur foi et leur langue sont des sauvages. Le pensionnat du Bois Vert a pour mission d'assimiler les plus jeunes Amérindiens, en les contraignant à renoncer à leurs traditions et à parler en français. Dans cet enfer, le diable a le visage du père Séguin, surnommé la vipère par les jeunes pensionnaires, qui ne sont à ses yeux que des numéros.
65, je t'ai appelé!
Chanta la vipère dont la peau trop blanche se colora légèrement. S'il y avait une chose que le prêtre ne supportait pas, c'était qu'on lui résiste. Pas même une seconde. Poussé par ses camarades de table, le jeune garçon s'avança finalement à contre-cœur, tête basse. Des larmes perlaient déjà au coin de ses yeux. C'était un des nouveaux, arrivé en cours d'année. Il avait encore du mal à se plier à certaines règles.
Mon regard dériva de son beau visage rond jusqu'au front luisant de ses gains.
Je t'ai entendu, encore ce matin, t'exprimer dans ton dialecte diabolique.
Commença le prêtre en faisant claquer sa canne au sol.
À chaque impact, les épaules du jeune garçon sursautaient et certains se moquaient déjà de lui.
Silence les autres! Et toi, 65, réponds-moi, quand vas-tu cesser ce sacrilège?
Lui demanda-t-il en détachant exagérément chaque syllabe.
Le garçon baissa les yeux. La vérité, c'est qu'il avait encore du mal à parler le français.
Vous êtes vraiment tous pareils. Au départ, vous ne comprenez rien à ce qu'on vous raconte. Vous ne saisissez que notre intonation et nos gestes, exactement comme des animaux. Mais toi, ça fait quoi, 3 mois que tu es ici? Si tu n'apprends pas plus vite avec la manière douce, je vais devoir employer la manière forte. C'est ça que tu veux?
Le menaça le prêtre en frappant l'air de sa canne. Le numéro 65 posa un regard vite sur la canne en question et sa bouche se mit à grimacer par à coup. Malgré ses lacunes, il avait parfaitement saisi que ses gains menaçaient de le frapper.
Alors, j'attends ta réponse.
s'énerva la vipère en triturant nerveusement le pommeau métallique.
Moi... désolé, parvint enfin à articuler le garçon.
Le père Séguin se mit brusquement à rire. Personne ne l'imita, mais je remarquai qu'une des sœurs souriait. Évidemment, c'était sœur Clotilde.
Moi... désolé...
singea Séguin d'un ton géniard. Puis, le fixant droit dans les yeux, il lui dit presque gentiment.
D'une manière ou d'une autre, on va t'apprendre à faire des phrases, mon sauvage.
Pour tuer l'Indien dans l'enfant, tous les traitements sont bons. En attendant sa libération prochaine, Jonas fait profil bas et rêve de forêt, celle où il se rend tous les après-midi pour assister Samson, un mystérieux bûcheron roux, chargé d'entretenir les arbres et de fournir du bois de chauffage au pensionnat.
Je vous préviens tous les deux, je veux pas de tir au flanc ici. Tempête ou pas, on bosse.
Nous avait annoncé Samson dès notre arrivée. Luttant contre le vent, je soulevai ma hache et attaquai un des trous marqués d'une croix orange.
C'est bien ça, Jonas.
Dans mon dos, c'était la voix rauque de Samson. Depuis le début, il était le seul adulte à ne pas nous appeler par des numéros. Il disait qu'il ne pouvait pas mémoriser un numéro par tête et que les prénoms, ce n'était pas fait pour les chiens.
Gabriel, par contre, c'est nul.
Ajouta-t-il en s'adressant à l'intéressé. C'est à cause de ma hache. La lame était moussée.
Eh ben alors, échange-la avec celle de Jonas.
Le dos légèrement voûté, Gabriel s'approcha de moi. Je savais qu'il avait 16 ans. Mais il ne les faisait pas. Quand je lui tendis ma hache, ses yeux se plissèrent et tout son visage se contracta en un rictus de malaise. Il saisit l'outil et se mit en position. Malgré ses efforts, sa position restait maladroite et il était déjà à son troisième essai.
Allez, frappe fort maintenant, j'ai pas que ça à faire.
Tremblant, Gabriel souleva la hache au-dessus de sa tête et cogna le tronc avec. De nouveau, l'écorce ne sauta pas. En revanche, l'onde de choc le fit tomber en arrière. Il se retrouva assis par terre, les fesses dans la neige et les joues rougies de honte.
« J'en ai vu des nuls, mais toi, tu bats tous les records !»
se moqua Samson.
« Va plutôt nous chercher du café !»
Les épaules basses et la mine pâle malgré sa peau hâlée d'inuit, Gabriel amorça un demi-tour. Alors qu'il s'éloignait en direction de la cabane du contremaître, une rafale de vent le fit tanguer.
« Pas si vite, rends-lui d'abord son outil de travail !»
aboya encore Samson qui semblait décidément de méchante humeur. Gabriel se retourna et d'un pas lent, il alla ramasser la hache qui gisait toujours au pied de l'arbre. Puis il me l'attendit brusquement, manquant de me blesser à la main.
J'esquivai la lame de justesse et saisis l'outil. Il gonfla les joues et grimaça. Ses yeux, chargés de haine, me fixaient. Je crus qu'il allait me dire quelque chose, mais il fit demi-tour sans rien ajouter.
Sombre et fort,
Sauvage
est un roman de Nathalie Bernard paru aux éditions Thierry Magnier. L'auteur s'est inspiré de témoignages des survivants des pensionnats autochtones qui ont existé jusqu'en 1996 dans tout le Canada. La narration est ample, associant au récit des flashbacks et des monologues intérieurs de Jonas, avec, ancré en son cœur, l'amour et le respect pour la nature qui l'accueille. Il est temps de nous quitter. Aujourd'hui, dans Éclat de livre, nous avons lu, aimé et dévoré Sauvage ou domestique, comment l'homme a domestiqué les animaux, un album documentaire de Jean-Baptiste de Panafieux, illustré par Simon Bailly et édité par Gallimard Jeunesse, à partir de 7 ans. Ainsi que le roman de Xavier Laurent Petit, Un monde sauvage, disponible à l'école des loisirs, à découvrir dès 10 ans. Et enfin, Sauvage, un roman de Nathalie Bernard, paru aux éditions Thierry Magnier, pour les bons lecteurs à partir de 14 ans. Vous pouvez retrouver ces livres dans toutes les bonnes librairies ou à la bibliothèque. Si vous voulez réécouter l'émission, elle est en ligne sur le site internet de Radio G, www.radio-g.fr. Éclat de livre, une émission préparée et présentée par Margot, avec la collaboration joyeuse de Florent, Mao, Ondine et Solène, pour des lectures d'extraits. Merci à tous! La musique que vous entendez en ce moment pour le générique est le morceau Maya du groupe Yappa.
Éclat de livre, c'est fini pour aujourd'hui.
Passez une très bonne semaine. On se retrouve dimanche dans 15 jours à 17h sur Radio G pour un nouveau goûter littéraire.